Pour commenter l'extrait suivant ou pour voir la version vidéo, rendez-vous sur le blog Un héros dans le net. Un regard théologique sur le monde. Bonjour, bienvenue à Un regard théologique sur le monde. Je suis à nouveau en compagnie de Raymond Perron. Bonjour, M. Perron.
Bonjour, Pascal.
Ça va aussi bien que tantôt?
Ça va dangereusement bien, effectivement, et vous-même?
Oui, mais pour nos auditeurs, c'est un autre jour parce que on leur montre ça un autre jour.
Un jour à la fois, comme disait la grande cantatrice Michèle Richard.
Hein? Elle disait ça.
Elle le chantait.
Ah oui.
Un jour à la fois, mon Jésus. Vous connaissez le chant, n'est-ce pas?
Je le connais pas,
mais... Également, je le veux chanter quand même pas, mais ça a été popularisé aussi par André Breton.
Ah, mais enfin, c'est une autre époque.
Une autre époque, en effet.
Aujourd'hui, à Un regard théologique sur le monde, on va écouter, pour introduire notre discussion, un extrait de l'émission de Pat Robertson, qui est un télé-évangéliste, c'est comme ça qu'on le présente, américain, qui est beaucoup dans le discours public aux États-Unis, qui est souvent associé là, à un christianisme un peu fondamentaliste, très conservateur de droite, mais là, il dit quelque chose d'un peu particulier. Alors, on va commencer par l'écouter, puis on va en parler après.
Pat, this is Andreas, who says, I have a friend whose wife suffers from Alzheimer's. She doesn't even recognize him anymore, and as you can imagine, the marriage has been rough. My friend has gotten bitter at God for allowing his wife to be in that condition, and now he started seeing another woman. He says that he should be allowed to see other people because his wife, as he knows her, is gone. I'm not quite sure what to tell him. Please help.
Oh, that is a terribly hard thing. I hate Alzheimer's. It is one of the most awful things because here's the loved one. This is the woman or man that you have loved for 20, 30, 40 years, and suddenly that person is gone. They're gone. They are gone. So what he says basically is correct, but I know it sounds cruel, but if he's going to do something, he should divorce her and start all over again. But, you know, to make sure she has custodial care and somebody looking after her.
But isn't that the vow that we take when we marry someone? That it's for better, for worse, for richer, for poorer?
I know. If you respect that vow, but you say, well, death do us part, this is the kind of death. I certainly wouldn't put a guilt trip on you.
Alors, voilà pour Monsieur Robertson. Alors, pour les auditeurs qui sont moins familiers avec la langue de Shakespeare, parce que peut-être que M. Perron, vous pourriez nous résumer un petit peu ce qu'il raconte.
Oui, en fait, la question est aussi troublante que la réponse, pour être tout à fait honnête avec vous. Alors, la dame lui raconte qu'un de ses amis a une épouse qui souffre d'Alzheimer, n'est-ce pas, et que il est un peu en colère contre Dieu à cet effet-là, et qu'il a pris la décision, n'est-ce pas, de voir d'autres femmes. Qu'est-ce que le pasteur Robertson en pense? Bon, après avoir exprimé sa grande tristesse vis-à-vis la maladie, en fait, il dit même « je hais le Alzheimer ». Il n'y a personne qui est en amour avec l'Alzheimer, c'est évident. Et il ajoute « oui, le gars, il a raison, effectivement, sauf que la façon de faire serait de divorcer et d'en épouser une autre ». Je pense que là, il a élaboré un tout petit peu là-dessus. Écoutez, voulez-vous que je commente ou si vous voulez le faire?
Ben, allez-y, vous êtes bien parti.
J'ai trouvé quelque chose d'abord d'un petit peu alarmant dans la question même. Lorsqu'elle dit « j'ai un ami qui, effectivement, est marié et son épouse souffre d'Alzheimer et il est un petit peu amer envers Dieu en raison de cela ». Au départ, c'est une très, 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 très mauvaise compréhension du christianisme. Et ça, malheureusement, c'est un christianisme tellement centré sur l'homme et c'est de plus en plus présent dans le monde évangélique par moment. Dieu existe pour nous, Dieu me doit le bonheur, si je suis chrétien, ça ne peut pas mal aller, tout doit bien aller. Ce n'est pas la lecture qu'on fait de l'Écriture sainte. Alors au départ, si on devient un peu en colère contre Dieu quand les choses ne vont pas bien, pour qui nous prenons-nous, n'est-ce pas? Nous servons un Dieu souverain, et c'est un Dieu qui nous a dit effectivement que dans son œuvre rédempteur, il allait utiliser tous les moyens à sa disposition pour nous transformer de gloire en gloire, en son image, et c'est effectivement dans ces épreuves-là, dans ce genre de souffrance-là, on n'a pas du tout le complexe du martyr se disant, mais c'est dans ces épreuves-là que nous grandissons, qu'on développe notre foi et qu'on démontre effectivement notre fermeté. Bon, la réponse, elle est aussi désolante. Écoutez, le pasteur Robertson n'est pas ce qu'on peut appeler une fleur première. Hein. Il y a quand même déjà un âge certain, voire un certain âge.
Une fleur fanée, vous voulez dire?
je vous laisse le propos. Mais vous savez qu'il est là depuis déjà plusieurs décennies. Il en a conseillé plus d'un. Mais qu'est-ce qu'on fait de cette institution si fondamentale du mariage, qui est le reflet de la relation que le Christ entretient avec son Église? Est-ce que lorsque son Église traverse des périodes sombres, et Dieu sait à quel point elle en traverse, Dieu va se décider d'aller voir d'autres églises, ou je ne sais trop, vous voyez? Qu'est-ce qu'on fait de cette notion traditionnelle, on se marie pour le meilleur et pour le pire? Si lorsque quelqu'un souffre d'Alzheimer, on dit bon, ben là, il a le droit de divorcer parce qu'elle n'est plus vraiment là, elle est encore là.
Et c'est l'argument justement qu'il donne en disant que c'est une sorte de mort en effet.
Oui.
Parce que oui, on se marie jusqu'à ce que la mort nous sépare, mais là, elle est comme morte.
Mais Pascal, vous serez certainement d'emblée d'avis avec moi que lorsqu'on se marie dans la vingtaine, ça a été votre cas, c'était le mien. On marie des épouses, ça va de soi là, et vice versa. Hein? Et on est-ce que 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard, c'est la même personne? On n'est plus vraiment les mêmes personnes, voyez-vous. Alors on pourrait invoquer, je trouve qu'ouvrir cette porte là, c'est ouvrir une boîte de Pandore. On ouvre la porte à tous les caprices imaginables potentiels et tous les prétextes pour mettre le mariage à la récupération, n'est-ce pas, et repartir à nouveau. Et ça, je trouve ça pathétique, et d'autant plus pathétique d'un homme comme Pat Robertson, qui a quand même, bon, il est pris un petit peu moins au sérieux maintenant. Je pense qu'au cours des dernières années, il a fait effectivement des déclarations qui, bon, soyons gentils, étaient à tout le moins étonnantes, hein, pour ne pas en dire davantage. Mais je trouve ça pathétique, il faut bien le dire, d'entendre des choses comme cela par quelqu'un qui est considéré, qui est vu comme une sommité chrétienne aux États-Unis.
Oui, ben, dans certains milieux.
Certains milieux, merci de le préciser.
Ce que je trouve un peu embêtant avec son argument, j'écoutais ce matin, c'est Albert Mahler qui commentait le propos de Robertson, et c'est là où j'ai pris la nouvelle et que j'ai décidé d'en parler avec vous. Et il disait, le bioéthicien, comment il s'appelle, Peter Singer, fait le même argument, que pour avoir droit à la dignité humaine, le droit à la vie, et dans ce cas-ci, le droit que nos vœux de mariage soient honorés et qu'on s'est engagé et l'autre personne s'est engagée envers nous. Pardon, c'est mon tour, le téléphone.
Oui.
La
rançon de la gloire, oui.
Voyez, voilà, c'est ça. Donc, ce que Singer dit, Peter Singer, qui est le bioéthicien à Princeton, qui est un athée et, à mon avis, un dangereux idéologue, il déclare que la dignité humaine nécessite certaines capacités mentales de base pour avoir droit à la vie. Donc, des gens qui ont des handicaps intellectuels majeurs ou un enfant qui naît trisomique ou même un enfant qui serait normal jusqu'à 21 jours si les parents changent d'idée parce que mentalement, il n'est pas dans une condition qui lui reconnaît le statut ou les droits plutôt d'être humain, on peut en disposer et l'euthanasier. Alors, je sais que Robertson ne va pas jusque-là, mais en disant, quand est-ce qu'on détermine qu'une personne est vivante ou elle est morte, c'est pas sa condition mentale qui le détermine. Et quand on promet qu'on se marie jusqu'à ce que la mort nous sépare, eh bien, c'est lorsque la mort véritable vient qui doit nous séparer. Alors, les vœux de mariage, et je pense que ce serait bien si vous voulez terminer avec ça pour le bénéfice de nos auditeurs, à expliquer, puis peut-être pour ceux qui sont moins familiers avec la notion chrétienne du mariage, qu'est-ce que ça veut dire l'indissolubilité du mariage?
Voilà, c'est une alliance. C'est une alliance comme celle que le Christ fait avec son Église. Jamais le Christ ne va répudier son Église pour quelque raison que ce puisse être. Et le mariage, c'est le reflet de cela. C'est par analogie. C'est une alliance, c'est un engagement qui effectivement est indissoluble et on l'énonce clairement lorsqu'on demande aux gens de procéder au prononcé de vœux. Dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la maladie comme dans la santé. Hein? Non pas si ton quotient baisse de quelque peu. Parce que Pascal, quand cessons-nous, quand est-ce qu'un être humain cesse d'être à l'image de Dieu?
Il cesse pas trop, d'après moi.
Il cesse pas du tout, hein, parce que nous n'avons pas l'image de Dieu, nous sommes l'image de Dieu.
Amen.
Le chrétien reflète davantage, bien sûr, l'image de Dieu qu'un non-chrétien qui macère dans l'immoralité. C'est davantage une caricature, mais il demeure quand même image de Dieu. Il a été créé à l'image de Dieu, et pour ne plus être image de Dieu, il faudrait cesser d'être humain.
Exactement.
Alors, aussi longtemps qu'on a le souffle de vie, nous sommes en vie. Il y a des signes vitaux, n'est-ce pas? Parce que effectivement, vieillir, nos capacités, même si on n'a pas l'Alzheimer, hein, à vieillir, nos capacités intellectuelles vont diminuer avec les années. Est-ce qu'on est moins humain pour autant? On demeure tout aussi humain, tout autant image de Dieu. Je suis absolument renversé, je ne vous le cacherai pas, par cette déclaration. Alors, je pense que les libéraux, les chrétiens libéraux ou les professants chrétiens libéraux et les non-chrétiens vont se réjouir d'une déclaration comme celle-là, mais les véritables chrétiens qui vivent, n'est-ce pas, qui sont enracinés dans la parole de Dieu, vont être absolument éberlués par une déclaration comme celle-là, surtout venant de quelqu'un qui se revendique des leurs.
Mmh. Je ne sais pas s'il l'a dit à brûle pour point, s'il avait eu la question avant l'enregistrement, s'il va se rétracter ou s'il le fait. J'ai l'impression que ça ne semblait pas très, très réfléchi, mais c'est récemment, il en a sorti une autre là, dans ce style-là. On dirait qu'il essaie d'atténuer un petit peu l'image du dur conservateur que certains lui ont collé. Là. Il veut avoir l'air plus d'un homme compréhensif et tendre, mais en faisant des compromis de cette ampleur-là, il n'y gagne pas vraiment.
Et avec tout respect, peut-être que ses propres facultés commencent aussi à s'affaiblir avec les années. Vous voyez.
Voilà. Ça, mais il reste humain. Il reste humain pour autant.
Il reste humain. Il a l'image de Dieu.
Et sa femme ne peut pas le divorcer parce que le divorce, ben, elle pourrait le divorcer, mais quand je posais ma question tantôt, et je pense aussi que ce serait important de clarifier pour certaines personnes, même des chrétiens qui croient que le divorce peut dissoudre le mariage, de sorte que lorsqu'on se divorce et qu'on va vers une autre personne, on ne commet pas un adultère. Or, l'Écriture est très très claire là-dessus. Jésus dit que si un homme répudie sa femme et qu'il en épouse une autre, donc s'il divorce sa femme et qu'il en épouse une autre, il commet un adultère. Pourquoi? Parce que le divorce ne peut pas dissoudre l'alliance du mariage. Il y a juste la mort qui peut le faire.
Oui. Excepté, bien sûr, qu'il y a les clauses permissibles du divorce, hein, que nous retrouvons dans l'Écriture aussi. Si quelqu'un devient une autre chair avec quelqu'un d'autre, hein, sauf pour porneia, qu'on traduit généralement par adultère, ou abandon de foyer, si bon, d'enfin... Mais là, c'est une autre discussion, bien sûr. Mais effectivement, le caractère indissoluble du mariage doit être impérativement préservé. Vous remarquez, Pascal, dans ces derniers temps, à quel point cette institution-là du mariage, elle est sous le feu nourri de toutes parts. On tire tous azimuts sur le mariage. D'abord sur les partenaires, hein, le mariage maintenant entre deux personnes du même sexe, le divorce facile, et même dans les milieux chrétiens, on commence à invoquer certaines raisons, on commence à rationaliser certaines circonstances qui pourraient effectivement permettre que le mariage devienne un peu plus de jour en jour un peu plus banalisé.
Mmh. Et c'est je pense que la société de façon générale se fissure lorsque le mariage est comme ça affaibli. C'est toute la société qui en écope. C'est la première institution dans laquelle on vit au monde, dans le couple. Et si le mariage n'est pas là pour garantir sa pérennité, sa solidité, c'est les vies des enfants qui en écopent. Et par la suite, c'est toute la société.
Et est-ce que notre société contemporaine n'est pas une vitrine de cette catastrophe-là?
Tout à fait, tout à fait. je pense qu'on moissonne beaucoup plusieurs effets de la Révolution tranquille aujourd'hui et qui ont pu avoir amené de bonnes choses, mais je pense pas que d'avoir fait sauter le mariage était une bonne chose pour qui que ce soit.
Révolution tranquille qui n'avait de tranquille que le nom. Une révolution n'est jamais tranquille. Ça, c'est comme un bon larron, hein?
Ouais.
C'est un oxymore.
C'est un oxymore.
C'est une contradiction des termes, oui.
Tout à fait. Bien, alors, sur ces propos, nous allons nous laisser. Et puis, si vous voulez commenter notre discussion ou poser des questions, gênez-vous pas de le faire en vous rendant sur un héros dans le net. Ben, vous voyez l'adresse. Ben, si vous êtes sur un héros dans le net, vous êtes déjà là. Mais si vous nous entendez à la radio, vous n'allez qu'à aller à cette adresse-là et vous pourrez discuter avec nous. Alors, au plaisir. Merci, M. Perron.
Merci, Pascal, et bonjour à votre épouse. Hein?